France Inter, le 7-10.
Il est 7h48, Sonia De Villers, le livre de votre invité paraît mercredi. Il s'intitule « N'oublie pas pourquoi tu danses ».
Et il n'est lu de rien du calvaire et du bonheur incomparable qu'auront été ces années à l'Opéra de Paris. Des petits rats au Sacre de l'Étoile, des premières pointes au dernier soir sur la scène du Palais Garnier où le public l'a applaudi 25 minutes durant, debout. Adieu inoubliable pour l'une des danseuses françaises les plus célèbres au monde. Voici l'histoire magnifique d'une femme qui a su dire non, d'une artiste enfin révélée à elle-même. Bonjour Aurélie Dupont.
Bonjour Sonia.
Parfois, une danseuse peut oublier pourquoi elle danse ?
Oui, je crois que les personnes qui sont, dès le plus jeune âge, ce qui était mon cas, dans une espèce de, j'appelle ça la washing machine, la machine à laver, d'être dans une espèce de couloir où il faut avancer coûte que coûte, et il y a une forme d'urgence à avancer. Oui, à un moment donné, on peut ne pas se poser des questions essentielles.
Vous avez subi des humiliations, des brimades en cascade, notamment dans l'enfance, au moment de cette école si prestigieuse, cette école d'élite qui va former les danseuses de l'opéra. Vous les avez racontées très tôt.
Oui. Je crois que j'étais une des premières à dire que j'avais souffert, en fait. J'avais souffert de méchanceté qui, pour moi, n'était pas forcément liée à l'exigence de cette école d'élite. Parce que j'ai bien conscience que c'est une école d'élite et que d'y rentrer, c'est déjà fantastique. Et que la façon d'apprendre la danse doit être dans une forme de perfection. Ça, c'était dans ma tête de petite gamine de 10 ans, très clair.
Qu'on n'obtient pas l'excellence.
Voilà.
C'était. Sans souffrir.
Non, sans souffrir. Bon, c'est vrai que la danse, quand il y a quand même parfois des moments dans l'apprentissage où oui, il y a de la souffrance. Quand il faut s'assouplir, quand il faut commencer les pointes pour les filles, les chaussons de pointe où on monte quand même sur les orteils. Donc, on peut pas dire que c'est quelque chose de très naturel. Oui, il y a des moments où c'est difficile. Mais cette petite méchanceté, ces petits règlements de compte d'adultes envers des enfants, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris l'intérêt dans ma progression que d'être attaquée comme ça.
À la fin du livre, vous dites tous ces témoignages qui ont fini par émerger, par sortir et qui racontent des situations caractérisées de harcèlement physique et moral, ça m'a libérée.
Oui, ça m'a libérée parce que je crois qu'il y a un moment pour tout et que d'en parler aujourd'hui, ça paraît scandaleux. Quand j'en parlais plus jeune, les gens ne comprenaient pas et très souvent m'en voulaient d'une certaine façon de dévoiler des choses que j'avais vécues à l'école et ils prenaient ça comme une forme de trahison alors que moi je suis extrêmement fidèle à ma maison qui est l'Opéra de Paris et ma carrière de danseuse et de directrice de la danse le prouve.
Mais vous, l'ultime concours, celui dont vous rêviez, vous êtes reçue à la condition que vous ne preniez pas un kilo supplémentaire. Et là, vous dites, il me prive de la joie d'être reçu, il l'empoisonne. Je les hais plus encore de cette haine qu'ils ont allumée en moi au lieu de la joie que je devrais ressentir.
C'est ça.
Fort.
Oui, c'est fort. C'est fort. En fait, cette phrase, ça m'a évidemment peinée, d'autant que j'étais classée première. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils attendent encore ? Et donc, j'ai compris après que, parce qu'on me l'a raconté, que la direction de l'école de danse ne souhaitait pas.
C'était Claude Bessy, la directrice.
Ça, c'est. Voilà.
Bah, vous la nommez dans
le
livre.
Que je passe première, alors que les autres membres du corps de ballet, donc de la compagnie, m'avaient jugée première. Cette petite phrase un peu assassine, forcément, je l'ai prise contre moi. Contre moi personnellement. C'est-à-dire que comment dire à une jeune fille qui passe son examen comme les autres, pour laquelle on vote pour la première place, comment est-ce humain d'ajouter que si mon corps ne plaît pas à Rudolf Nureyev, qui était à l'époque directeur de la danse, je pouvais me faire virer. Je trouve que c'est dégueulasse. Donc là, il y a une espèce de pointe de haine, oui, en effet, comme je l'écris, il m'empêche en fait de vivre ma passion, il m'empêche d'avancer.
Mais vous étiez grosse pour une danseuse ?
Franchement, très honnêtement, ouais. J'avais 16 ans quand je suis rentrée dans la compagnie. Ouais. 16 ans, c'est un corps de jeune fille. C'est un corps de jeune fille qui change, qui évolue, qui prend sa place. Un corps qui grandit, on ne peut pas l'empêcher.
Est-ce que c'est le fait d'avoir réussi à dire stop à la direction de l'école qui vous a aidé à tenir tête à d'immenses chorégraphes, des stars planétaires, dont vous révélez dans le livre que parfois, ce qu'ils font endurer aux danseurs est totalement anormal. Est-ce que c'est ça qui vous a aidé à dire non à William Forsythe, un génie américain, à dire non à Roland Petit, une gloire française?
Oui.
Mais non, c'est non.
Bah pour moi, les qualités humaines sont plus importantes que les qualités, enfin plus importantes, aussi importantes que les qualités professionnelles. Moi, travailler avec un chorégraphe qui est très talentueux, qui ne m'apprécie pas, n'a pas envie que je sois en studio avec lui et n'a pas forcément les mots délicats pour me faire bien travailler, je ne vois pas l'intérêt pour lui comme pour moi d'être en studio.
Aurélie Dupont, 1997, Pina Bausch, une célèbre chorégraphe allemande, est invitée à l'Opéra de Paris avec le Sacre du Printemps. Et pour ce ballet, elle va choisir 10 garçons, 10 filles, dont vous. Elle va changer votre vie. Il faut savoir que le Sacre du Printemps, ce sera, vous le dites, hein, le public est en délire à la fin de la première. Ça, c'est un souvenir absolument extraordinaire. Le public devient fou, dites-vous.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'il y avait de fou ce soir-là ?
C'était... Je crois que il n'y avait jamais eu, jusqu'à présent, jusqu'à cette première du Sacre du Printemps de Pina Bausch, un spectacle aussi poignant, aussi comme une flèche qui a percuté les cœurs de chacun dans la salle et sur scène. Et je pense qu'à partir de cette date-là, les programmations ont évolué. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ah oui, à l'Opéra Garnier, on peut en effet voir des danseurs dits classiques faire de la danse contemporaine à ce point, donc ça veut dire pieds nus, une création, une chorégraphie de Pina Bausch, dans de la terre battue, et voir le public debout de Garnier. Donc ça en disait long en fait, ça voulait dire que nous danseurs, on était prêts à s'ouvrir et à aller vers une nouvelle forme de danse. Et ça en disait long aussi sur le public, où tout d'un coup on s'est dit, ils peuvent aussi voir autre chose que le lac des Cygnes.
Et avant le Sacre du Printemps, avant la rencontre avec Pina Bausch, vous écrivez « Je suis devenue exactement ce que je voulais être. Une danseuse classique solide, qui se protège, une technicienne. »
C'est ça.
Qu'est-ce qui manque à une technicienne ?
La vie, un cœur qui bat, la vulnérabilité, une fragilité, une faiblesse, mal danser un soir, tout ça.
Mal danser un soir ?
C'est bien parfois de mal danser. Moi, je suis très copine avec un chorégraphe japonais qui s'appelle Saburo Teshigawara. Et lui, il fait des improvisations tous les jours. Et je lui dis, mais Saburo, comment tu fais pour être bon à chaque fois ? Et il me dit, mais parfois je suis très mauvais. Je lui dis, mais comment tu gères ? Il me dit, mais c'est très très bien d'être très mauvais. Comme ça, on voit la véritable valeur de quand on est inspiré et quand un spectacle se passe bien.
Ça veut dire que cette école de la perfection, elle ne permet pas justement de faire entrer dans la danse les erreurs, les maladresses, les à peu près ?
Je dirais pas ça, mais je dirais qu'on n'est pas élevé dans la vulnérabilité. Et en tous les cas, on ne nous dit pas qu'une faiblesse ou de la fragilité peut être très beau chez un artiste. Et je pense que nous n'étions que danseurs et pas artistes à l'école.
Et c'est Pina Bausch qui a fait de vous une artiste ?
Ah oui, c'est Pina Bausch qui m'a délivrée, qui m'a réparée, comme je dis dans le livre, de tous mes maux, de tous mes doutes, que je sois pour la danseuse et pour la femme également.
Alors, vous avez choisi de devenir mère au cours de votre carrière à l'opéra, de ne pas attendre la fin de votre carrière à l'opéra pour avoir des enfants. Ça aussi, ça fait entrer de la vie dans la danse ?
Oui. Oui, et puis, je sais pas, je me suis sentie vraiment privilégiée de faire ce métier, je crois, lorsque j'ai eu des enfants. Parce que je me suis dit, quand on me pose la question dans la vie, je disais, bah, moi, je danse. Je me lève le matin et je vais danser. C'est génial.
C'est génial. Vous deviendrez, bien après vos adieux à la scène, directrice du ballet. Expérience mouvementée au sein d'une institution qui est réputée difficile à gouverner. Pourquoi vous n'avez pas eu envie de raconter cette expérience-là comme une sorte d'aller jusqu'à la fin de ce cycle-là ?
Alors, j'ai un peu raconté. J'ai rendu à Albin Michel, qui est ma maison d'édition, entre 700 pages à peu près.
Ah. Il en reste 480.
Mais oui, il y en a pas mal en fait. Et on s'est dit, non mais ça va faire trop, ça va faire un livre énorme. Donc on s'est dit, faisons deux tomes. Donc là pour l'instant, c'est l'autobiographie qui sort de la danseuse étoile. Mais évidemment que j'aimerais revenir sur ces 6 années de direction.
Donc vous nous annoncez un deuxième tome.
C'est pas signé, mais c'est quelque chose auquel je pense bien sûr.
Merci Aurélie Dupont.
Merci.
N'oublie pas pourquoi tu danses, donc paraît aux éditions Albin Michel. Une suite, on verra.